C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadoboudadi.
Bonjour à tous.
Alison Wheeler. Ah,
yes.
Daniel Morin.
Oui, bravo Daniel.
Albert Algout.
Bonjour. Ouais.
Et nos invités, David et Stéphane Fuenquinos.
Oui.
Déjà, on va dès le début, tout de suite, enlever une vanne que j'ai subie hier, honteusement, parce que j'ai dit Fuenquinos, et vous avez dit, mais non, ça se prononce pas comme ça, les garçons.
Tu le dis parfaitement.
Bah voilà, c'est la bonne prononciation.
Fuenquinos,
voilà. Ouais, et pas fun, je sais pas ce que tu m'avais inventé.
Moi j'ai dit Fuenquinos.
Mais on va pas se vexer, hein, tout nous va.
Funky Town, on nous appelait Funky quand
Town.
J'étais à l'école. Ouais.
Voilà,
ah oui, Lips.
Et puis surtout Fuenquinos, bon là, c'est la radio. mais...
Donc, les frangins, vous signez votre deuxième long métrage, ça s'appelle Jalouse, porté par Karine Viard. Entre autres parce que le casting est absolument remarquable et tous les rôles, quelle que soit la durée de présence à l'image, sont extrêmement justes. C'est votre deuxième film. Jalouse, moi je suis allé regarder dans le dictionnaire la définition de jalouse. Ça fait du bien comme ça de temps en temps d'aller voir définition de jalousie ou de jalouse. Et il n'y a pas autant dans la définition, il n'y a pas autant de méchanceté qu'il y a dans votre film. C'est-à-dire que jalouse, c'est on est envieux de ce que l'autre a, on est envieux, on le regarde, on aimerait être à sa place. Mais vous, vous êtes passé au stade de la
jalousie. Ah oui, alors c'est parce que c'est souvent associé à la jalousie amoureuse. Mais là, effectivement, là, elle est jalouse de tout le monde. Et ce qui nous excitait dans ce sujet, c'est tout ce que ça allait provoquer d'énergie malveillante. Donc la portée par Karine Viard, effectivement, elle va très loin dans le film. Et nous, c'est la jalousie un peu agressive, ça c'est sûr.
Elle est jalouse, et on peut l'être, mais surtout elle le dit.
Oui,
et elle le dit
oui.
Au principal aucun. Intéressé, c'est ça qui est terrible, elle n'a pas de filtre.
Alors là, c'est vraiment, il n'y a pas ni cigarette ni filtre. C'est le mois sans cigarette, donc c'est le mois sans filtre pour Karine Viard.
Oui, elle dit j'agis par impulsion.
La vaporette de la haine.
Oui, bah alors, parce que vraiment, l'envie, c'est jalouser, ne pas aimer ce que l'autre a, mais la jalousie, c'est ne pas aimer et vouloir que l'autre ne l'ait plus.
C'est ça.
Donc c'est
elle arrive. C'est nourri de colère aussi et de frustration.
Oui, il y a de la colère, il y a de l'aigreur. Mais parce que ce qui est formidable, enfin j'espère, c'est qu'on la comprend à un moment.
Ouais,
voilà,
ouais.
C'est-à-dire que.
On va resituer l'histoire parce que nous avons eu la chance de voir le film, ce qui n'est pas le cas de ceux qui nous écoutent à 11h07.
tu sors.
Ma phrase était très cohérente pour une fois.
Non, elle était jolie en plus.
Non, pour une fois, et elle avait une fin. Pour une fois.
C'est un point, bordel.
David Fuenquinos, si je dis que c'est l'histoire d'une dame qui est à l'aube de sa ménopause et qui se retrouve...
Mot interdit, merci.
C'est un mot interdit, ménopause.
Non, je rigole. Si tu devras donner 100€ à notre attaché de presse, c'est pas grave.
Il faut surtout pas parler de...
Non, on rigole, mais bien
alors,
sûr.
Oui, elle est en transit, on dit dans le film.
Voilà. C'est ça.
Elle est en transit.
C'est
voilà.
Ça. C'est ça.
Elle est en zone de transit.
Comme moi.
Je ne veux pas déflorer toutes les vannes du film non plus. Ouais. J'aime bien, j'adore cette expression transit. Mais elle vit seule avec sa fille qui est une danseuse et une très jolie jeune fille amoureuse et qui vit avec une liberté tranquille et un plaisir non dissimulé son histoire d'amour. Et tout ce qu'elle touche ou tout ce qu'elle aborde dans sa vie, c'est la loose.
Oui, et en même temps, c'est sa pyrénie. Nous, ce qu'on voulait, c'est que notre actrice et l'héroïne soient belles, soient en réussite. Il y a même un très bel homme qui a envie d'elle. Donc, elle n'est pas en train, elle est pas en train de traîner en pyjama dans son salon. C'est ça qui est intéressant. C'est à quel moment dans sa vie où elle se sent mal dans son corps, mal dans sa peau, et
même mal dans son boulot.
Oui, mais
elle semble être une bonne
aussi, tout
elle semble être une bonne
manière.
Prof, et même c'est les seuls moments où elle a un tout petit peu de générosité, d'attention auprès de ses élèves. Mais elle voit arriver
une jeune prof.
Une jeune prof,
mais en fait, son vrai problème, c'est qu'elle ne supporte plus le bonheur des autres. Il y a quelque chose. Déjà, elle est mal, c'est pas facile, mais quand en plus les autres vont bien, ça devient insupportable.
Et puis elle perd la vedette, c'est que tout d'un coup, dans l'établissement scolaire, elle est regardée comme cette enseignante sympathique qui fait des projets, qui est limite proactive. Et tout d'un coup, elle n'est plus le centre de l'attention. Il y a une scène assez jolie où on voit cette jeune enseignante entourée de tous les enseignants autour d'elle.
Et qui se marrent, ils sont heureux.
Ça fait deux semaines qu'elle est là.
Et c'est déjà la vedette du bahut.
Et on a l'impression que c'est une scène dans un film d'ado où tout d'un coup, on voit la personne populaire de l'établissement, entourée de tout le monde.
C'est exactement ça.
De sa cour, en fait, et elle se sent isolée.
Oui, parce que c'est surtout, c'est comme exactement ce que vous dites, sa couronne, et voilà, on lui a volé sa couronne.
C'est une reine
déchue, et surtout, surtout, ça arrive à un moment donné où sa fille, elle a plus de prise, l'ex-mari, il est plus là, les mecs, il n'y en a pas. Et donc, il lui reste son boulot. Et donc, si en plus, et c'est la seule aussi, Anaïs de Moustier, qui joue cette jeune prof, à lui rabaisser le caquet quand même.
Parce qu'elle n'a pas peur d'elle. Elle lui dit, alors, ok, d'accord, je vais dire que tu m'emmerdes, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Quel a été le point de départ, non pas de l'idée du film, mais de la jalousie de cette femme? Est-ce que c'est sa situation amoureuse, sa situation professionnelle, la vie ou l'image que lui renvoie l'image de bonheur que lui renvoie sa fille, le regard des autres, qu'est-ce qui, à votre avis, le détonateur?
Je crois que le regard des autres, c'est très très juste. C'est vraiment tout un mélange de ce que vous venez de dire. C'est vrai que peut-être le point déclencheur, c'est tout simplement d'avoir sa fille qui a 18 ans, tout le monde la regarde, elle va attirer l'attention. C'est vrai qu'on a chargé la mule aussi, parce qu'on a une jeune actrice qui est sublime.
Vous parlez comme ça de Karine Viard quand vous dites charger la mule?
Non, le sujet.
Si on dit on a une jeune actrice, très jeune, danseuse, sublime, Karine Trella dit oui, moi. Mais c'est vrai que voilà, c'est en plus elle a une beauté donc elle est cette jeune fille qui est une vraie danseuse classique.
Ah c'est clairement, mais ça se pas peine de préciser, ça se voit dans le film qu'elle est pas doublée ni du tout.
C'est une brof,
on l'a cherchée pendant des mois et des mois.
Elle a une beauté qui n'est pas agaçante. C'est encore plus énervant même pour sa mère.
Dara Tonbroff, hein, c'est le nom de cette fille qui non seulement danse bien mais joue bien, parce qu'il n'a pas dû être simple pour vous aussi de trouver la danseuse et qui est en plus la bonne comédienne.
Miracle du cinéma.
Mais c'est ou du bon casting. C'est en tout cas une très bonne comédienne et belle danseuse. Il y a Anne Dorval également dans le film, Thibaut de Montalembert, Bruno Todeschini, Marie-Julie Baupe, Corentin Fila, Anaïs de Moustier et évidemment Karine Vien. Ils sont tous d'une justesse. Alors ce que je trouve totalement dingue dans le film, c'est la pureté du jeu de Karine Viard qui, sur un regard, sur une intonation, sur un juste, comme ça qu'elle pourrait pousser, fait passer des tonnes de messages et des tonnes de sentiments. Elle a un petit regard sur Anaïs de Moustier, mais qui est juste un regard comme ça, de haut en bas, elle ne dit rien.
Elle la scanne.
Et ça envoie, mais une tonne de messages incroyables.
Mais c'est impressionnant de travailler avec elle.
Ouais.
Vraiment, surtout que c'est un rôle très compliqué. Elle est de tous les plans, elle a tout à jouer parce que voilà, on est dans la comédie, mais en même temps, on voulait pas faire l'économie, voilà, de ce portrait de femme, ce qu'elle traverse comme difficulté, comme fêlure. Et Karine, elle fait des allers-retours en permanence. Elle est à la fois bouleversante et c'est un bulldozer de comédie.
Et c'est vrai qu'on oublie de dire que les acteurs, c'est agir et c'est aussi réagir. Bon, y a des comédiens ici, Alison, Daniel.
Grand comédien.
Apprends que tout flatteur.
Mais c'est vrai que donc,
il a eu la lucidité de ne pas dire que j'en étais. C'est ça qui est bien.
Non mais Nagui, tu sais bien que
on n'en parle pas maintenant. Tu sais bien que non.
On n'en parle pas maintenant.
Mais il est au moins
on peut parler de ta filmographie si tu veux.
Non. Sinon, moi, j'ai des photos.
Ariel Zetoun, 99.
Salut.
Et donc, l'idée, c'est de réagir. C'est aussi important. Et Karine, elle est tellement généreuse qu'elle était aussi très, très, très contente de jouer avec d'autres personnes, mais elle leur donnait tout. Même quand le plan n'était pas sur elle, elle donnait tout.
C'est ça, c'est réagir, c'est ce que nous, on appelle les moments d'écoute. C'est-à-dire, quand un comédien n'a pas sa phrase à dire, n'a pas ce moment où il dit « j'ai répété, j'ai l'intonation, j'ai l'accent qu'il faut, le sourire qu'il faut », non, c'est le moment où simplement il subit la scène, où il vit la scène de l'intérieur, et ça passe, mais c'est tellement... elle est dingue, elle est juste dingue, Karine Viard.
Et ça va même plus loin, parce qu'en fait, sur le papier, ce personnage, vu comme on vient de le dépeindre, est complètement exécrable. Et finalement, moi, je suis très attachée à ce personnage. C'est-à-dire que je ne la condamne pas. Je lui trouve des circonstances atténuantes. Je la comprends un peu comme la compagne de son ex-mari, finalement, qui explique sa conduite par la peine. Sa malveillance, d'une certaine façon, par la peine, le mal-être qu'elle ressent. Et je trouve que Karine Viard permet ça. Parce qu'elle n'est pas, c'est pas manichéen, c'est pas juste je suis une ordure et je veux le mal de mes proches.
En tout cas, elle,
elle est terrible. Hein.
C'est ce qui est drôle et c'est ce qui rend d'ailleurs le film une excellente comédie où on se marre devant. C'est toujours délicat de se marrer devant le malheur des autres, mais c'est vrai que c'est les situations les plus dramatiques qui sont souvent les plus drôles.
C'est ça.
Et quand elle dit à sa copine que sa fille est moche, enfin, je veux dire, c'est quand même.
C'est vrai que c'est violent.
C'est jubilatoire en même temps.
Elle dit à sa copine, toi, t'as de la chance parce que ta fille est moche. Moi, ma fille est belle et je peux te garantir que c'est pas facile.
Et ça, c'est
parce que c'est sa logique.
C'est génial.
Et ça,
mais c'est tellement vrai, sauf qu'elle le dit, elle. Il y a plein de gens qui le pensent mais qui n'osent pas le dire.
On était toujours borderline sur cette. On travaillait sur cette difficulté d'être toujours. Est-ce que c'est pas trop fort? Est-ce qu'elle va pas trop loin? Il faut qu'on continue quand même à avoir de l'empathie pour elle.
Oui, la comprendre. Oui.
Voilà. Et Karine, ce qui est génial, c'est qu'elle joue la scène mais à fond.
Elle en rajoute aussi ou un peu avec vous?
Très peu. Non, mais elle assume totalement le personnage. Ouais. C'est ça qui est. Elle a une très grande liberté dans la vie et ça se ressent aussi dans son jeu.
Ah ben nous elle l'avait prouvé ici la liberté.
On va y venir, tu vas voir.
Tu l'as gardé.
Oui, je l'ai gardé.
Okay, donc on a un document, France Inter de la liberté d'expression de Karine Viard.
On a pleuré.
Teasing.
À suivre. Le film sort aujourd'hui. Il faut absolument que vous le voyez, sinon je vous garantis vous allez rater beaucoup de.
J'ai cru que c'était une menace pour le public.
Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont en parler et dire de quoi tu me parles. Ben Jalouse, tu l'as pas vu et ils vous auraient.
Eh ben, t'es bien boulé.
Vous aurez un train
t'es
de retard.
Bien boulé.
Et puis, on en parle beaucoup, les journalistes en parlent déjà beaucoup dans la presse. J'espère qu'on ne va pas porter la poisse à Karine Viard de le dire, mais c'est vrai que c'est le genre de rôle qui mérite d'être récompensé. Mais la première des récompenses serait la rencontre avec le public. Donc allez-y, ça sort aujourd'hui. Et justement, j'espère, à propos de la présence de... De David et Stéphane Fuenkinos, mon cher Jean-Jacques Lang.
Oui.
Vous avez bien compris pourquoi nous avions invité.
Mais bien sûr. Salut les coms et les meufs de la BO. Mon cher Nagui, je vois une fois de plus que ce n'est pas la délicatesse qui vous étouffe.
Oh, bonne vanne.
En effet, si Jalouse, le titre de la comédie formidable dont viennent de nous parler les talentueux frangins David et Stéphane Fuenkinos, je vais le prononcer correctement. Si Jalouse, disais-je, est un adjectif employé au féminin, puisque ça appliquant à Nathalie, le personnage incarné par la merveilleuse, la généreuse, la talentueuse Karine Viard, vous fichez comme de votre première paire de fesses de savoir si ce terme jalouse peut être ressenti péniblement par moi et s'il ne réveille pas des souvenirs douloureux. Car je l'avoue, longtemps j'ai été d'une humeur plus que jalouse vis-à-vis de Jacques Lang, dont je rappelle à vos auditeurs qui pourraient se méprendre en m'écoutant qu'il est mon cousin et vice-versa.
Non, on se méprend pas, on sait que c'est pas
le une situation familiale, laissez-moi parler, que depuis ma plus tendre enfance, je vis dans la frustration, l'humiliation, la déception, l'affront, la mortification, bref, des tas de trucs anciens. À Jacques la gloire et la lumière. À moi, l'ombre et l'anonymat. À lui, les costards de chez Kenzo, Paul Smith, Thierry Mugler et les escarpins de chez Louboutin. À moi, les liquettes de la Halle aux fringues et les godasses chinées chez Emmaüs. À lui, les teufs, la dance et le canon à confetti. À moi, l'état fin gras et les airs déconfits. Vous voyez, je sais rimer aussi de temps en temps. Au pauvre naïf qui s'imagine que le statut de cousin de Jacques m'aurait valu de mirobolantes promotions et l'accès à des planques dorées, je tiens à préciser que les seuls postes où j'ai été pistonné par Jack furent celui de shampooineur chez Zouzou Coiffure et dame pipi au banane à café. Et là, croyez-moi, vu l'affluence et l'exiguïté des cagouins, ce fut pas un emploi fictif. Quel cousin, mon cousin. Bref, plutôt que d'être son cousin...
Ça devait rapporter de l'argent, quand même.
Tout à fait, les pièces jaunes. C'est l'endroit. Bref, plutôt que d'être son cousin, j'aurais carrément préféré être une imitation de Jack Lang, quitte à ce que ce soit une imitation aussi laborieuse qu'approximative, dans le genre des singeries auxquelles ça donne parfois chez vous. L'excellent.
Albert Alou.
Le formidable. Le drôlatique. Le virilissime Albert Alou. D'ailleurs, si vous le voyez, vous l'embrassez de ma part.
Absolument.
Bonne émission à tous.
Merci, Jean-Jacques Lang. Albert Alou.
La bande originale. Nagui. Sur France Inter.
Karine Viard, Dara Tombroff, Anne Dorval, Thibaut de Montalembert, Bruno Todeschini, Marie-Julie Baupe, Corentin Fila, Anaïs de Moussier, entre autres, au casting de ce film Jalouse, réalisé par Stéphane et David Fuenkinos. Il y a des caméos ?
Eh oui, je vous ai
vu.
Ah oui,
c'est vrai que mon frère joue le professeur de yoga.
Mon frère joue le pianiste.
Le pianiste. Ouais,
mon frère, ça a été des mois de casting. On avait besoin d'un professeur de yoga et on n'a pas trouvé. Et puis il s'est dit, voilà, c'est moi. Ça fait des mois qu'il espérait le faire.
Mais ça lui va très
bien. Il est formidable.
C'est va très bien, il est crédible.
Mais on espère que le film marche parce que sinon il va redevenir professeur.
Allez voir le film, sinon je suis obligé de refaire prof de yoga et c'est pas possible.
Et vous jouez du piano ?
Debout. Oui. Ouais, c'était mon rêve.
On n'a pas osé. Ça vient pas de
Stéphane.
C'est pas possible.
Merde, j'ai perdu ma place de chroniqueur.
Ça, c'est pas possible.
T'as dit quoi ?
Il a dit, vous jouez, quand je dis vous jouez piano, il a rajouté debout.
Très drôle. Fan des années 80. On voit qu'il écrit les vannes du film.
Alors, justement, ne vous fiez pas aux vannes faites en direct. Les vannes du film sont bien mieux écrites.
Mais elles
ont été nègres. Elles ont été réfléchies plus de temps que ça.
On a changé la langue.
Vos oreilles ont sifflé lorsqu'on vous a dit la venue de David et Stéphane Fuenquinos.
Oui, et David Leïla. Et Stéphane, quand je pense à vous, je pense à votre héroïne, Karine Viard, qui ne joue peut-être pas dans Jalouse un véritable rôle de composition.
Non, t'as pas le droit. Elle n'est pas là. C'est drôle si elle était là, mais là, t'as pas le droit.
Je crois qu'elle vient d'envoyer un SMS.
Mais oui, mais vous allez voir, j'aime bien son petit côté un peu vachard dans la blague. Et là, justement, c'était à ce micro, avec nous. Il était question de Marion Cotillard et de Blondie.
Peut-être est-elle très poilue, Marion Cotillard, on n'en sait rien.
Je rappelle que c'est une journée à thème pour Karine Viard, parce qu'elle a déclaré...
Elle a une chatte de 74 ans, je pense.
Vous avez raconté, c'était avec vous.
C'est énorme.
Oui. Mais alors,
elle n'a pas compris le principe du rouge en radio, que le micro était ouvert.
C'est peut-être pas le meilleur mot, mais elle ne savait peut-être pas que le micro était ouvert.
Non, elle ne savait pas, elle n'avait pas compris que quand c'était rouge au milieu, il fallait mieux faire attention. En gros, Karine Viard, ben voilà, ça ne pouvait être que votre Nathalie. Ça tombe sous le sens
carrément,
maintenant.
Bah oui, c'est exactement.
Non, mais en fait, elle jouait pendant votre émission. Elle n'est pas du tout comme ça.
Elle est heureusement comme ça. C'est-à-dire qu'elle est.
Et d'ailleurs, quand elle a lu le scénario, elle nous a tout de suite dit c'est moi, je suis jalouse. Elle nous a appelé et elle nous a dit mais même aller encore plus loin.
Elle
voilà,
nous a
c'est
poussé.
Ça qui est excitant.
Elle nous a même poussé.
Mais vous avez écrit pour elle.
C'est écrit pour elle, mais on a toujours peur qu'une actrice ne puisse ne pas avoir envie d'interpréter un tel rôle.
C'est angoissant, comme elle disait.
Pour l'image, pour... voilà,
si jamais, quand quelqu'un vous dit « on a écrit pour vous », si on n'aime pas, c'est affreux, on descend d'un immeuble. Et si on aime, on se sent d'être à la hauteur. Mais là, il y avait une vraie rencontre. Il y a eu une vraie rencontre.
Mais qu'est-ce qui vous a fait dire qu'elle pouvait accepter ce rôle ?
Le pognon.
Ouais, d'acheter une maison.
Non, mais ça, faut pas confondre avec vous, Daniel Morin.
C'est vrai, j'ai tendance à mélanger.
Bah, elle a dit que c'était un rôle hyper excitant pour elle, parce qu'il y a vraiment tout à jouer.
Je sais que la question serait délicate si je vous demandais quelle actrice française aurait pu prendre ce rôle à la place de Karine Viard, mais puisque vous avez fait des castings, Stéphane, dans le monde entier, quelle actrice anglo-saxonne, américaine ou anglaise ou australienne, que sais-je, française, pourrait jouer le rôle de Karine Viard.
Remake.
Non, pour le remake, ouais, déjà. Ah, ça pourrait être Kate Blanchett, je la vois bien faire d'accord. Ça. Voilà. Ou Julianne Moore. Voilà.
Il y a un petit côté Blue Jasmine.
Ouais, il y a un petit côté vrai. Comme ça.
Et je me demandais, est-ce que la jalousie, thématique du film, vous connaissiez ça entre frères?
On se déteste.
C'est très dur d'être à côté l'un de l'autre.
Non, ça c'est autre chose. Mais est-ce qu'il y a il peut y avoir une petite forme de jalousie ou
sachant
pas
que l'un des deux a du talent, oui, c'est sûr que c'est ça.
Vous serez à la fin de l'émission.
Qui met une bulle sur le feu.
Très bonne vanne.
Nagui essaie de faire comme nos techniciens qui essayent toujours de nous diviser ou voilà.
Alors, non, mais ce qui est génial avec Stéphane, c'est qu'on est très complémentaires. Donc moi, je suis très admiratif, voilà, de tout ce qu'il peut faire et ce qu'il apporte. Et puis j'espère que c'est réciproque.
Est-ce que vous avez gardé
mon petit frère, je suis tellement ému, vous imaginez mon petit frère qui est pris Renaudot, qui est Goncourt des lycéens, c'est ça fait quelque chose et là je le vois réalisateur parce que quand on est sur un plateau, il est et on travaille énormément en amont.
J'ai l'impression qu'avec vous frère rime avec fier, mais est-ce que vous avez gardé la même manière de travailler que sur la délicatesse, c'est-à-dire dans la répartition du qui fait quoi, tout ne se fait pas forcément à deux,
est-ce que mais après avec un peu plus je pense de confort
d'expérience,
et d'expérience.
De plaisir.
Alors,
aussi.
Concrètement, comment
concrètement,
vous êtes
partagé? Je fais tout, il fait rien, voilà, c'est tout. Non.
L'écriture.
Concrètement, c'est un film, c'est 2 ans, même plus, de préparation. Donc vraiment, on a le temps de l'écriture, de monter
le premier draft.
Le film.
C'est
on
vous
fait des allers-retours, voilà, on discute
parle beaucoup, on s'envoie
après,
des scènes.
On a le temps pendant ces 2 années d'avoir une véritable vision commune. Donc après, quand on est sur le tournage, évidemment, on sait exactement où on veut aller.
Je sais pas toi, Leïla, mais j'ai l'impression que c'est David qui a écrit et qui la propose à Stéphane et Stéphane lui renvoie des suggestions. Et vous voulez pas le formuler comme ça?
Mais non, parce que
je préférais dire c'est écrit à 4 mains.
Bah, parce que, c'est l'idée, c'est que malgré tout, au bout d'un moment, on ne sait plus qui injecte quoi. Et voilà, voilà. Ouais. Mais c'est parce que c'est des méthodes qui ne sont pas.
Sur le cas, c'est vraiment un mélange de nos deux sensibilités.
Ouais, voilà.
Et alors sur le plateau, comment la direction
Franchement, on prend toutes les décisions à deux. Mais Stéphane, vous l'avez rappelé, c'est un grand directeur de casting. Donc c'est vrai qu'il est beaucoup avec les acteurs. Moi, j'ai beaucoup en charge la mise en scène, mais toutes les décisions, voilà, qu'on regarde les scènes, le combo, on se met d'accord, il va voir les acteurs, les plans, je lui propose, voilà, ce qu'on imagine. Donc finalement, voilà.
Le combo, c'est l'écran de contrôle sur lequel on voit l'image, parce que maintenant avec le numérique, on voit immédiatement ce qui est filmé. Il n'y a plus de besoin de développer des pellicules.
Exactement. Mais notre dernier film remonte à 6 ans, donc on a vraiment pris le temps de travailler, d'essayer de convaincre toutes les personnes, les acteurs, avec qui on avait vraiment envie de travailler. Donc ça a été. Ça a été aussi un grand plaisir.
Et au-delà de l'expérience, entre ces deux films, qu'est-ce qui a été changé aussi dans votre rapport aux équipes, dans le travail avec les comédiens? Est-ce que vous vous êtes dit, le prochain film, on s'y prendra un petit peu différemment?
On espère avoir progressé. D'ailleurs, la presse est très très bonne. C'est vrai que les gens soulignent ça. On a vraiment mis du temps. C'est évident qu'un premier film, c'est aussi un terrain d'expérimentation.
Et il y avait aussi l'idée de l'adaptation. Forcément, il y avait matière à comparaison. Alors que là, c'est un sujet original. Ouais. C'est un côté un peu vierge comme ça. Donc c'est vrai que oui, ça nous a permis de s'améliorer aussi.
C'est aujourd'hui que ça sort, ça s'appelle
Jalouse. Il y a un moment d'émotion là.
Non, c'est ça, je pensais qu'elle allait reprendre. On s'est regardé avec Léa, mais c'est toi ou c'est moi?
C'est votre regarde.
C'est un peu comme... hier dans C'est à vous, Karine Viard a dit, de son point de vue, d'avoir deux réalisateurs, que c'était beaucoup plus agréable parce que quand c'est un seul réalisateur, elle a dit, c'est un ordre que vous donne le réalisateur. Quand il y en a deux, c'est un dialogue qui s'installe entre les trois, c'est-à-dire entre l'acteur et les deux réalisateurs. Oui. C'est vrai que ce point de vue était... Je sais pas, Alison, tu viens de gémir.
Non, elle voit juste faire.
J'imagine que ça doit être plus confortable pour elle.
Elle a surtout dit que, en fait, c'est elle. Elle a une petite formule qui dit que quand papa lui donne pas quelque chose, elle va voir maman.
Ah oui.
Mais elle n'a pas précisé qui était qui.
Jalouse sort aujourd'hui. Allez au cinéma, c'est un très 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 bon film, très drôle et qui apprend aussi beaucoup sur le regard des autres, justement sur la manière dont on peut blesser aussi par moments sans trop faire attention ou à l'inverse.
Vous devriez aller voir plusieurs fois.
ou à l'inverse.
Tu ne comprends pas
si bien dire.
Je sais.
Ou à l'inverse, être blessé, essayer de comprendre aussi pourquoi l'autre a réagi de telle ou telle manière. Ça marche dans tous les sens. Daniel Morin. Jalouse sort. Aujourd'hui, voici l'excellente Alison Wheeler.
Merci, bonjour à tous. Bon, je vais pas super bien, je sais pas. C'est pas la dinguerie, Nagui. Je sais pas, chaque année, au mois de novembre, je suis pas au top. J'ai les chaussettes dans le moral, j'aime pas cette saison, je comprends rien à l'heure d'hiver. J'ai déjà bouffé tout mon calendrier de l'avant. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet très sérieux. Un sujet qui nous touche tous et toutes et qui n'est pas Harvey Weinstein. Sortez vos mouchoirs, cette histoire est émouvante. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Taratata. Ok. Je me baladais, port de Champéret. J'avais pas de manteau sur moi, c'est vrai. J'aurais dû méfier de cet inconnu qui s'est approché, m'a éternué dessus. Le lendemain, je me suis réveillée. J'ai senti ma gorge qui me grattait. Je crois que j'ai attrapé un truc bisquide. J'ai la voix de Garou et la gueule de Régine. Putain de rhume. Un vrai rhume d'enculé. Celui qui vous embrume et vous prend tout le dé. Oh, merci. Je suis abstinente, je peux plus respirer. Mon mec me parle de cul, moi je parle du nez. Je me sens si faible et si sale. J'aimerais retrouver ma virginité nasale. J'ai perdu tout sex appeal. avec le Vic sous le nez, on dirait Hitler en chlorophylle. Comment mon corps produit-il autant de mucus?
Oh,
Hidalgo, c'est ta faute, les bouchons d'imbécidus, putain de rhume. Un vrai rhume d'enculé, France Inter. Je prends des médocs vénères. Ça me donne des effets secondaires. Ouais. J'suis addict, j'sniff des suppos à la menthe. J'suis comme dans un Virginie des portes. J'ai plus de force ni de réflexe. J'perds le contrôle en mode Verdon Fervex. Oh, c'est le putain de rhume.
Ah, c'est bon.
Rhume d'enculé, c'est un message posthume. Je crois que je suis décédé. Merci. Je voudrais remercier tous ceux qui ont été là pour moi ces derniers jours. Dolly Rhume, Nurofen Flash, Doctissimo, la filmographie de Haneke, le laboratoire Boiron, le L52, Philippe au généraliste. Je t'aime. Putain de rhume, putain de rhume. France Inter.
Génial.
France Inter. La bande originale.
Alice.
Génial, génial. Formidable.
Cette voix.
Vous sortir le disque.
Ouais, génial.
Mais on attend la semaine prochaine, ils nous ont fait une sur la gastro. Donc,
On sera content de pas être
là. Il a compris. Il a compris après.
Non, j'ai eu l'image. Ça, j'ai compris. Puis j'ai eu l'image. J'imaginais le public qui était là avec des mouchoirs, mais ça faisait avec des rouleaux de PQ. Ouais. Ouais.
Tu vois,
c'est un concept. Tu peux faire un album entier avec ça.
Merci,
merci Alison Wheeler.
Merci à vous.
Pour...
merci pour la choré avec tes mouchoirs.
Pour David et Stéphane Fuenquinos, maintenant la bande originale de leur carrière. On va parler, on va reparler de Jalouse, évidemment, le film. On va parler aussi de la jalousie. Est-ce une maladie? Est-ce un problème psychiatrique? Est-ce que tout le monde est plus ou moins jaloux? Ça sera avec Pascal Neveu, directeur de l'Institut français de la psychanalyse active, qui est notre invité tout à l'heure. Mais d'abord, dans les années 90, vous écoutiez Stéphane.
Ah oui. Ah ouais.
C'est-à-dire que vous, vous compreniez ce qu'il chantait, puisque vous étiez prof d'anglais.
J'étais prof d'anglais à Sarcelles. Donc j'étais au cœur de l'action. Je me prenais tellement pour Michel Pfeiffer dans Esprit Rebelle. Voilà, c'était Coolio revisitant Stevie Wonder. Et j'avais fait une chorale avec les profs. Et je leur avais fait apprendre ça, oui.
Ah, trop bien.
Paradise.
Oui, oui.
Bien. Donc,
et vous avez exercé pendant combien de temps?
Pendant 3 ans.
À la fin de la chorale.
Ça s'est arrêté.
Ça se trouve sur YouTube, je crois. Hein.
Non, on ne peut pas le voir.
Mais en parallèle, déjà, l'intérêt pour le cinéma, pour...
Oui, j'avais fait en fait des cours de comédie. J'avais été au cours Florent, j'avais été au cours de Nils Arestrup avec l'école du passage. Mais très très vite, je me suis rendu compte que je ne serais pas un jeune premier et que c'était mieux d'être derrière en fait. Et c'est vrai que...
Vous avez commencé même stagiaire sur les tournages, c'est ça?
Oui, oui, j'étais stagiaire sur un tournage au Québec il y a très très longtemps. Et finalement, j'étais aussi assistant d'attaché de presse, j'ai bossé à Cannes.
Ouais.
Et bon, rattrapé par la morale et les parents, il faut un vrai métier. Donc j'ai appris, j'ai passé mon CAPES, je suis devenu prof d'anglais.
C'est l'aîné quoi, l'aîné doit aussi
montrer l'exemple.
Mmh. Et on vous appelait Rain Man?
Oui, mais ça c'était une petite blague. Parce
toujours d'ailleurs.
Non. Parce que je retenais tous les noms, enfin surtout les génériques de films, et j'ai jamais retenu une formule de maths, hein, je vous rassure. Hein. Mais par contre, voilà, pourquoi je me souvenais des noms des acteurs.
Hypermnésie,
mais pas à la Amélie Nothomb.
Voilà,
bonjour, je vous ai vu, vous aviez une robe rouge en le 3 juillet 1932. J'en suis pas à ce point-là.
Mais ça, c'est possible avec Albert.
Mais c'est super utile aussi pour votre métier aujourd'hui.
Certains s'en souviennent.
revienne.
Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'était, ce qui était formidable, c'est que jamais j'aurais pensé que ça pouvait être un métier déjà de choisir des acteurs, puisque ensuite je suis devenu directeur de casting et je me suis dit, ah bah oui, en fait, voilà, il y a une compétence qui peut être exercée.
Mais qu'est-ce qu'il faut justement pour exercer ce métier? Parce que je trouve ça très difficile, tout d'un coup, de voir quelqu'un lors des essais. On voit des vidéos sur Internet avec des essais de jeunes comédiens et parfois on se dit, mais moi je suis à 10 000 lieues d'imaginer que cette personne pourrait devenir quelqu'un. Qu'est-ce que vous voyez?
D'abord, je pense que le fait d'avoir enseigné, c'est très lié pour moi. C'est-à-dire que la pédagogie, elle est exactement la même. Elle est au même niveau. J'ai compris après qu'il y avait un lien finalement. Et après, c'est vraiment une histoire de sensibilité. Au bout d'un moment, c'est vrai que c'est très dur de dire à des comédiens ou des comédiennes, voilà, elles rentrent dans une pièce et c'est elle ou c'est lui. C'est très étrange. Mais c'est aussi, il faut que ce soit lié au projet. C'est-à-dire que c'est jamais... moi, j'étais pas comme Dominique Besnard qui pouvait arrêter des gens dans la rue sans avoir un projet. C'est quand on...
professionnel.
Non, Nagui, professionnel. Nagui, non, mais bien
c'est
sûr.
Bonjour, c'est mon cousin.
Vous ne dites pas de bêtises, j'en suis.
J'ai une histoire très, très rapide sur Dominique Besnard. C'est pour te dire que c'est dingue, ce métier. Il arrête un petit garçon de 5 ans dans la rue quand il fait le casting du jouet. Les parents refusent qu'il fasse le film. Et 25 ans après, il fait le casting de Anne Fontaine, Nettoyage à sec. Ouais. Et il est avec Anne Fontaine, ils ont du mal à trouver le jeune homme un peu ambigu du film. Il arrête un mec dans la rue, c'est Stanislas Mérard, et il lui dit, vous m'avez arrêté quand j'avais 5 ans.
C'est incroyable.
Voilà. Ben ça, c'est
arrêtez de m'arrêter.
C'est un stalker.
Voilà. Non, mais c'est des choses comme ça. Il faut être obsédé par un rôle.
Et vous avez quoi? C'est l'instinct qui vous parle à un moment quand vous devez choisir entre, par exemple, deux comédiens qui pourraient être les bons pour incarner le personnage.
Après, ce qu'on a fait aussi pour quand on travaille sur ses propres films, ce qu'on a fait aussi pour Jalouse, on parle beaucoup. Ce qui nous excite, c'est d'abord des gens qui n'ont pas travaillé ensemble.
Ouais.
Parce que c'est vrai que c'est agréable. Et là, Karine, elle n'avait pas beaucoup travaillé avec, à part Thibaut de Montalembert.
Et ouais, puis, c'est que de l'inédit.
Voilà, c'est un peu de l'inédit. Puis c'est aussi de la fraîcheur à la fois pour les acteurs et puis pour nous.
On va reparler de ces années de direction de casting des années 90. David, vous écoutiez Les Cure. Quand il y a le rôle, c'est ouvert, Stéphane.
Vous savez ce que ça a coûté à Karine Viard?
Oui, mais je n'ai pas le même vocabulaire que Karine.
En plus, je balance, c'est moche. En écoutant Cure, d'ailleurs, vous revoyez à quelle étape de votre vie, dans une chambre d'étudiant?
C'est extrait de l'album Désintégration, donc ça donne un peu l'ambiance. J'étais un adolescent gothique au bout du rouleau dépressif.
Vraiment
voilà comment on devient écrivain.
Quoi.
Ah oui, j'avais vraiment, je détestais le soleil, j'ai eu ma période vraiment curiste, vraiment à fond. Quoi.
Curiste.
Vraiment, c'est tout un état
d'esprit. Non, curiste en peignoir avec des claquettes.
C'est ça.
Mais avec les cheveux frisés, c'était compliqué.
C'était avant que j'écoute les chansons d'Alison Wheeler.
Non.
Il y a un événement qui fait quand même basculer votre vie, qui fait que vous êtes là aujourd'hui.
Ah oui, à l'âge de 16 ans, j'étais gravement malade, j'ai passé des mois à l'hôpital, donc j'écoutais pas ça quand même, hein, parce que là ça aurait été une double peine. Mais oui, ça a changé ma vie, parce que quand on est dans la proximité de la mort, après je me suis mis à lire, à écrire, à faire de la musique, à m'ouvrir au monde culturel.
Quoi, il y a eu une sorte de besoin tout d'un coup de... Parce que là, à la limite, on pourrait se dire, si on est passé pas loin de la mort, on va avoir envie de vivre plus intensément, de façon un peu plus folle. Et vous,
ouais,
c'est la lecture, c'est
même
l'écriture, c'est... ça passe aussi par là.
Pardon, c'est pas le cas de tout le monde, vous allez dire pour vous, mais c'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde
non, mais
pas
vraiment,
manière.
Moi j'ai passé de nombreux mois à l'hôpital, j'ai vraiment une expérience de proximité avec la mort, et c'est vrai que nous, Stéphane et moi, on n'est pas du tout issus d'un milieu culturel.
Ouais.
Mais moi, chacun à notre façon, finalement, on s'est aussi sauvé par la culture. Et moi, pendant toute cette période, après, c'est vrai que j'ai été attiré par la sensualité, par le beau, par la vie dans tout ce qu'elle pouvait comporter de merveilleux, et donc forcément les œuvres d'art.
Et c'est quoi votre premier bouquin après cette période-là qui vous a donné l'envie de dévorer?
Voilà, Martine.
Martine, ok.
J'ai lu beaucoup la littérature russe.
Ouais.
J'ai lu tout Dostoïevski à cette époque-là.
Qui ça?
Vraiment, j'étais boulimique de. De quoi? Qu'est-ce que tu allais dire?
Il a dit qui ça? C'est là où vous êtes complémentaire.
On est très complémentaire.
L'un lit Dostoïevski, l'autre demande qui.
Moi, j'ai dit non, mais c'est bon, on est complémentaire. Mon frère, il était à fond sur Paul Auster, donc la littérature américaine, moi, la littérature russe.
C'est bien, vous complétez.
Ça, c'est formidable.
Ce duo.
Voilà, on se donne rendez-vous à mi-chemin.
Voilà, sans savoir pourquoi ni comment. C'est ça qui est bien.
Ça, c'était dans les années 90. On arrive justement aux années de casting pour vous. En 1995, vous écoutiez Stéphane Loudoyon. On va préciser pourquoi vous avez choisi d'écouter Loudoyon.
C'était bien, ça. In every cab that goes by, in the
strangers. Parce que là, il y a un anachronisme, évidemment, entre
Absolument.
Cette chanson et la période. Vous aviez envie d'écouter Loudoyon parce que vous l'aviez rencontrée quand elle avait une douzaine d'années.
Voilà, je l'ai connue adolescente et donc elle chantait pas encore. Mais moi, j'ai vu tout de suite le potentiel de l'actrice. C'est surtout que c'est son papa, Jacques Doyon, qui m'a donné ma chance et avec qui j'ai débuté voilà, dans le casting. Et donc, j'ai connu Lou et maintenant, je suis très heureux de voir tout son parcours aussi formidable. Et voilà.
C'est facile de ne pas casser la fille du réalisateur quand c'est lui qui vous engage.
Malheureusement, je peux vous dire que c'était très compliqué parce qu'il n'avait aucune envie qu'elle joue. Et c'était même le contraire. Et je me rendais compte forcément qu'elle était très très douée. Elle traînait pendant les mercredis où moi je faisais le casting. Elle traînait à côté, elle venait. Alors elle n'était pas en période gothique, elle était en période grunge rasta, avec un petit rat sur le dos, tout
ah oui,
ça. Très sympa. Mais elle était incroyablement naturelle et ça aurait été dommage. Le rôle était pour elle.
Ouais, clairement.
Et voilà. Mais je l'ai fait dans le dos de Jacques Doyon et je lui ai montré après. Il était un peu énervé, puis en même temps fier.
C'est important ce pouvoir de conviction donc pour un directeur de casting, c'est-à-dire de continuer à suivre son intuition, à essayer d'emmener le réalisateur avec lui, avec vous.
Oui, c'est un pouvoir de proposition, ouais. De conviction et de proposition. Parce qu'il y a tellement de comédiens, c'est le seul pouvoir qu'on ait, c'est de sélectionner d'une certaine manière. Et par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a tous des envies différentes, et tant mieux, parce que sinon, on a l'impression de voir toujours les mêmes.
Vous, David, vous rentrez dans une école de jazz à Paris et vous écoutiez John Lennon. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Petite parenthèse, pardon, par rapport à ce que vous évoquiez tout à l'heure avec votre expérience médical ou comme vous avez dit j'ai côtoyé la mort, cette chanson c'est imaginer qu'il n'y ait pas de Dieu, il y aurait la paix sur monde et les choses seraient peut-être différentes s'il n'y avait pas des guerres de religion, mais cette chanson c'est s'il n'y a pas de Dieu, ça a changé, vous choisissez cette chanson, je me dis est-ce que l'expérience que vous avez vécue a changé votre rapport à la croyance.
En tout cas ça m'a rendu très mystique, ça c'est certain, et sensible aux forces de l'esprit, à cette époque, j'ai commencé vraiment à écouter beaucoup, beaucoup les Beatles, à jouer de la guitare. C'est vrai que ça m'a accompagné. Puis Lennon, c'est vrai que c'est une figure qui m'a marqué. J'ai écrit après un livre sur lui par sa fragilité, sa poésie. Toute sa vie m'a toujours vraiment bouleversé. Et ce qui est terrible avec la vie de Lennon, c'est qu'on sent que c'est un être de souffrance. Il était apaisé vraiment en 1980, au moment où il a été assassiné.
Et vous auriez voulu devenir guitariste, d'en faire votre métier, c'était un moment...
J'aurais adoré être musicien pendant des années, mais c'est la musique qui n'a pas voulu de moi. J'ai dit après, quand j'ai publié mon premier roman, on m'a demandé « Mais pourquoi écrivez-vous » Et je répondais « Parce que j'ai pas trouvé de bassiste. » Mais parce que j'ai essayé de monter des groupes, ça marchait jamais, toujours des galères. Et puis parallèlement, j'écrivais, j'envoie mon roman par la poste et je suis publié chez Gallimard. Donc d'une certaine manière, le destin a choisi.
Et vous continuez à pratiquer d'un instrument, vous devez avoir plus de facilité pour trouver un bassiste, non?
Oui, non, je joue encore un petit peu, mais voilà, pour le plaisir, et c'est peut-être mieux pour tout le monde.
En 2005, c'est une histoire de pied qui arrive, la première réalisation donc des Frangins Fuenkinos. Stéphane, vous écoutiez.
C'est quoi? C'est vachement bien.
Ouais, c'est pas mal, hein.
Ça bouge bien.
Et qui est d'ailleurs dans la BO du film.
Alors, faut pas trop le dire parce que...
T'as pas décarré les droits.
En fait,
bah ça y est, c'est fait,
non,
c'est dit.
Mais on avait le droit, c'était les trois premières mesures. Enfin, voilà,
c'est que la batterie, t'as qu'à dire, c'est François Valéry, elle danse, Marie, elle danse, mais c'est bon.
Non, voilà. Enfin une bonne référence.
Attends, c'est Marco Prince qui avait fait la musique de notre court-métrage.
De FFF.
Et c'est vrai qu'on avait injecté, David et moi on est un peu fan de Michael Jackson depuis toujours. Et voilà, donc c'était une manière de faire un petit clin d'œil.
Et alors c'est votre premier court-métrage ensemble, qui est le déclencheur?
Alors d'abord, c'est David, parce que moi, même en étant depuis 15 ans dans le métier, la réalisation, c'était pas évident. J'avais travaillé avec des génies, avec des gens moins talentueux, mais je me suis rendu compte en allant sur un plateau. C'était un film de Stéphanie Murat qui s'appelait Victoire. Elle m'a demandé de faire le making-of, et c'est en faisant le making-of, j'ai vu évidemment la répartition des tâches, j'ai vu qu'on pouvait se reposer aussi sur des techniciens. J'ai appelé David et je lui ai dit, non mais je crois que vraiment là il y a une équipe. Il me dit, bah écoute, on a qu'à faire un court-métrage. Je lui dis, bah écris-le. Et il m'envoie en écrivant un mail, il me dit « Alors voilà, c'est un garçon et une fille, ils se rencontrent, c'est leur premier rendez-vous. » Je dis « Ah bah c'est génial, alors toi t'écris des romans, c'est ça ton pitch. PS, on verra que les pieds. » Alors là évidemment, j'ai ri et j'ai dit « Ah ouais, alors ça d'accord, on y va. »
Et il y avait déjà les pieds de Thibaut de Montalembert.
Absolument.
Exactement. Ouais, qu'on retrouve dans Jalouse.
Ils étaient tellement bons que 15 ans. On a monté la caméra. C'est ce qu'il dit aujourd'hui.
Il y avait également Pascal Arbillot, ouais. Lionel Abelansky, Sylvie Joly. Joli casting. Ouais.
Et ça, c'est la première expérience. Et après ça, on se dit, on repart. On part du cours, on va au long métrage. Et on
ça,
commence
c'est un chemin de croix.
C'est vrai?
Oui, ça a mis du temps. Et c'est vrai qu'on a cherché des idées. Quand mon roman La Délicatesse est sorti, c'est Stéphane qui m'a appelé. D'ailleurs, le jour de la mort de Michael Jackson.
Ah ouais,
c'est assez drôle.
25 ans. Voilà.
Pour avoir les droits.
Et il m'a dit, mais c'est exactement ça qu'on doit faire.
Voilà.
Ça met du temps.
Est-ce que l'exercice maintenant d'avoir fait un film à partir d'une page blanche et pas l'adaptation d'un roman de votre plume, David, était plus agréable?
Oui, plus agréable, et surtout même pour la réception du film, pour le tournage, voilà, pour pas être associé à un de mes romans. On nous a proposé de réaliser d'autres de mes romans, mais c'est vrai que c'était évident pour nous, après La Délicatesse, que si on avait la chance de faire un second film, ça serait pas lié à un de mes romans.
Jalouse est au cinéma depuis ce matin, et la bonne nouvelle, c'est que c'est le meilleur démarrage depuis ce matin. Bravo pour les films français.
Ouais,
félicitations.
Bah ouais, c'est vrai qu'on a...
Merci. Pourvu que ça dure.
C'est vrai qu'on a depuis 3 mois un accueil, on a fait une grande tournée vraiment formidable, et la presse aussi, donc on est vraiment très
heureux. Ce qui est beau, c'est qu'en fait on reçoit, les gens nous parlent beaucoup avec ce film, et c'est pas, alors peut-être que vous en parlez aussi, mais
avec Pascal Neveu, il y a un côté psychanalytique,
il y a un côté confession.
D'accord, alors, vraiment, on va le savoir tout de suite justement. Pascal Neveu, directeur de l'Institut français de la psychanalyse active, l'IFPA, auteur de nombreux livres dont Mentir pour mieux vivre ensemble, qu'il faut absolument offrir à Daniel Morin. Votre dernier livre s'appelle Revivre même quand on est terrassé, ça a été publié en 2014 chez Solar. Tout à l'heure je posais la question, je me demandais si la jalousie était une maladie, est-ce que c'est juste un défaut ou c'est plus grave que ça, docteur?
Bonjour tout le monde. Tout le monde est jaloux. Maintenant, il faut
même ceux qui disent je ne suis pas jaloux.
Bah bien évidemment, il faut quand on dit non, de toute façon, ça veut toujours dire oui. Hein.
Sans parler de psychanalyse.
On parle
de terrain glissant.
Ça commence.
Ça commence. On parle de caractère.
Terrain glissant.
Tout dire. C'est vrai qu'il dit la même chose, Hervé Weinstein.
Pour tout dire, ce film.
Hervé.
Ça peut être.
On connaît des Hervé.
Pour tout dire, ce film est réellement un cas d'étude psychologique. Parce qu'on pourrait s'imaginer que Nathalie. Qu'interprète Karine Viard.
Non, Stéphane, c'est pas.
Elle est en crise de milieu de vie, elle est envieuse, etc. Pas du tout, elle est jalouse. La jalousie est une forme d'envie. Qu'est-ce qui différencie la jalousie de l'envie? La jalousie, c'est finalement une grosse crise d'angoisse parce qu'on a peur de perdre un objet. Tandis que l'envie, c'est le désir de l'objet. Et qu'est-ce qui va se passer à travers ce film? D'ailleurs, à quel moment...
Non, pardon, pour bien être clair, l'envie, c'est quelque chose que l'on n'a pas.
Qu'on n'a pas.
Et la jalousie, c'est quelque chose
qu'on a peur de perdre.
Que l'on a et qu'on a peur de perdre.
Et ça, l'enfant le vit quasiment dès sa naissance, au bout de 5-6 mois. Qu'est-ce qu'il a peur de perdre immédiatement? Il a peur de perdre sa mère.
Son doudou.
Il a peur de perdre son doudou. Il a peur que ses frères et sœurs soient privilégiés par rapport à lui.
Il a peur de perdre l'amour de ses parents.
Également. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, et ça crée, et ça cristallise à travers ces angoisses, des comportements tels qu'ils sont décrits dans ce film. C'est-à-dire qu'on peut en arriver à vouloir détruire l'autre, à lui vouloir le plus grand mal possible.
Donc on est jaloux.
C'est un thriller ce film.
On est jaloux par essence, on est jaloux malgré
nous, de toute façon. D'accord. C'est quelque chose de totalement constitutif. Maintenant,
ça se régule.
Si on va chez un psy, oui. Mais
non, bah, je veux dire, ça serait, on peut prendre sur soi, parce que ça nous renvoie quand même pas une image positive.
J'imagine qu'il y a plusieurs degrés de jalousie.
Tout à fait, tout dépend du taux d'angoisse. Et ensuite, vous développiez tout à l'heure la jalousie maladive qui est liée à l'amour. Alors là, effectivement, c'est réellement la crainte de perdre l'autre. Et on va s'imaginer, on va rentrer dans une sphère totalement paranoïaque en s'imaginant tout et n'importe quoi.
Il y avait un film de Chabrol extraordinaire, La jalousie, avec François Cluzet.
L'enfer, génial.
Ah oui, mais moi j'ai eu une patiente, elle a donné un bracelet électronique à son mari. Hein. Bon, on peut aller jusque-là.
C'est mon chien, moi.
C'est pas le sujet du film. Et ce qui est intéressant dans votre film également, c'est que finalement, dans cette perte d'objet, alors on va pas tout dévoiler, il y a sa fille, elle va avoir trois moments où elle va prendre conscience de sa maladie, elle va se réveiller. C'est en relation, je vais pas tout dévoiler, à la mort.
Oui, c'est vrai.
C'est la perte absolue. Ouais. Et c'est intéressant parce que, par rapport à ce que vous racontiez tout à l'heure, parce que vous-même, vous avez vécu un moment confronté à la maladie et la mort. Peut-être qu'il y a quelque chose qui transparaît.
Mais là, oui, c'est une histoire de renaissance aussi. Oui,
voilà, sûr, tout à fait. Et qui se dit à un moment donné dans ce film. Donc la jalousie, on la porte tous en soi. On est capable de la canaliser quand, finalement, on est rassuré quant au fait que l'autre ne disparaisse pas.
Oui, il faut préciser, non plus sans tout dévoiler du film Jalouse, c'est qu'elle va évoluer dans sa manière de l'être et dans le regard des autres ou dans son acceptation des
elle
autres.
Elle va aller jusqu'au bout aussi.
Exactement. Mais tout à l'heure, quand vous parliez de jalousie, vous avez souligné la jalousie amoureuse ou affective. Ça veut dire qu'on peut être jaloux dans un domaine et ne pas l'être dans l'autre, ou lorsque l'on a ce trait de caractère ou ce défaut qu'est la jalousie, on l'applique à tout, aussi bien professionnel que familial, qu'amical.
Alors, ça peut se diffuser dans tous les domaines, et on le voit très bien par rapport au personnage, sur le plan affectif, professionnel, etc. L'autre devient son pire ennemi, qu'il va falloir tuer. En quelque sorte, qu'il faut détruire, parce que justement, il nous révèle cette angoisse très 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 profonde. De temps en temps, les symptômes, sont un petit peu plus importants dans certains domaines. Tout dépend comment on s'est investi dans son identité, parce que la grande question également, même si on joue sur le terme jalousie ou envie de quoi, envie ou en mort de quoi également. C'est tout un travail sur sa propre identité. Sur son existentialisme, pardon.
Je me demandais, au sein d'une fratrie, est-ce que la position d'être l'aîné, le cadet, fait
que...
Il
paraît que la pire, c'est au milieu. Quand il y a trois enfants, c'est celui du milieu qui le faut le plus.
Pour la jalousie, en tout cas...
Moi, j'étais au milieu, j'étais très heureux.
Oui, bah regarde le résultat.
Mais pas les deux
salaud.
Autres.
Salaud.
Mais pas les deux autres.
On a vu qu'il y a un problème d'identité.
Une petite analyse,
une forme de schizophrénie, là.
Non, ça, c'est clair, allongez-vous.
On salue Jack. Mais oui, ça peut jouer, mais l'aîné également peut être envieux du petit parce qu'on va lui porter davantage de protection, voilà. Davantage de tendresse, de soins, etc. Tout est une histoire d'usage. Mais tout ça, également, quand on le voit en thérapie, c'est très intéressant. On s'est amusé entre différents psys à prendre toute une fratrie. On a pris les trois enfants d'une fratrie. Eh bien, figurez-vous que lorsqu'ils nous racontaient leurs histoires, leurs souffrances, on n'avait pas l'impression que c'était les mêmes parents. Donc on se construit également à travers l'interaction et la systémique, une systématique très particulière. Et des jalousies différentes.
Est-ce que la jalousie a des avantages? Parce qu'on la présente comme étant une maladie, comme étant un défaut, mais finalement, est-ce que ça a du bon d'être jaloux?
Tout dépend.
Est-ce que c'est un moteur?
Tout dépend si elle nous pollue la vie et si elle nous pollue l'existence, parce qu'on voit bien que...
Bah, ça peut polluer celle des autres, en tout cas.
Bah, les deux, de toute façon. Hein. Quoi qu'il en soit, cette personne-là, on va la mettre au rebut, on va s'en protéger, en quelque sorte, parce que ce sont des êtres extrêmement malheureux. Et Nathalie, dans le film, elle est extrêmement malheureuse. On le voit très bien à un moment donné, où elle décompense, où elle s'effondre totalement.
Et est-ce que c'est pas complètement louche de jamais être jaloux?
Si. C'est comme les gens qui nous disent qu'ils sont toujours gentils, vivent les bisounours, etc.
Non,
il faut
rapport,
toujours aller chercher l'opposé.
Dans le rapport mère-fille, ça doit pas être simple pour une mère de dire qu'elle peut éprouver de la jalousie à l'encontre de sa fille.
C'est tabou.
C'est tabou parce que, et vous venez de le dire, on ne peut pas ne pas être jaloux.
Parce qu'il y a un autre souci également chez la femme, c'est qu'à un moment donné, elle va avoir la ménopause. Sujet tabou, on en a parlé tout à l'heure également.
Ouais.
La cinquantaine, et elle peut encore procréer, elle peut vivre quelque chose que je n'ai plus le droit de vivre.
Mais des grand-mères porteuses.
Sauf en Italie.
Hein. Oui, sauf en Italie. Effectivement.
Ou avec Daniel Morin.
Ceux qui souffrent le plus, finalement, la jalousie. C'est, là, dans le film, c'est Karine Viard qui souffre le plus ou c'est son entourage?
L'entourage, celui qui le subit, il peut couper la relation immédiatement. Elle, en revanche,
elle
vit ses angoisses. Elle reste toute seule. Ouais. Elle s'emprisonne, elle s'enferme, elle continue à cultiver et sans cesse à repenser les mêmes choses. Donc ça crée des sillons psychologiques.
C'est beaucoup lié au corps dans notre film. C'est-à-dire vraiment. Il y a quelque chose d'hormonal, évidemment, elle se sent pas bien dans sa peau sans arriver à exprimer ça.
Parce qu'il y a la comparaison.
Il y a une conséquence.
Parce qu'il y a la comparaison également avec sa fille, la danse, etc.
Ou la concurrence. Ça veut dire qu'il y a des âges où la jalousie n'a pas le même poids. En l'occurrence, l'enfance, parce que on veut garder son jouet, on veut pas le prêter, on est jaloux de tout, peut-être quand on est enfant.
Il y a des relations de domination, de toute façon, qui vont avoir lieu durant le bain social à l'école. Donc on va avoir son clan, on va être le préféré, le privilégié. Quelle horreur lorsqu'on a perdu sa meilleure copine, son meilleur ami. C'est plus dans la douleur chez une femme, également chez une petite fille, également, parce que elles sont davantage dans l'empathie, dans l'émotion qu'un garçon. Le garçon, lui, c'est direct. Il coupe les relations immédiatement.
Donc la jalousie masculine, la jalousie féminine ne sont pas les mêmes.
Ne s'exprimera pas de la même façon. Ça va être beaucoup plus perfide chez une femme. Voyez-le très bien, une femme qui est jalouse en amour, une femme qui va être quittée, et également est capable des pires vengeances. De vengeance, mais beaucoup plus subtile, davantage de créativité chez la femme.
C'est plus subtil.
Sans malin, les petits.
Et alors, quand on est confronté à une situation où on éprouve une forme de jalousie, pour essayer de rationaliser le truc, qu'est-ce qu'on doit se dire pour y échapper?
C'est compliqué, parce que ça signifie ne plus être coupé avec soi-même. Et en même temps, comme on se coupe de la relation avec l'autre, et également, on est dans une forme de mensonge. Et donc, on se construit une néo-réalité, des fantasmes qui n'existent pas. Donc, il faut en discuter avec quelqu'un de médiateur qui va apporter un autre regard et un prisme différent sur les difficultés de la personne.
Mais on est d'accord, la jalousie n'est pas une source de déclenchement d'une thérapie. On se dit pas, je suis jaloux, je vais aller voir un psy. On le fait quand on a une dépression.
Je ne sais pas.
Non, mais la première cause, je sais pas comment on peut pas. Pour les symptômes qui poussent quelqu'un à aller chez un psy,
je vais pas bien, je suis angoissé.
C'est plutôt la dépression, donc généralement.
Dépression, c'est avant. Vaste comme terme.
Pardon.
Mais ça vient avant. Je vais pas bien, je me sens pas bien.
Ok.
Et lire un livre de mon frère.
Là, après on suicide.
Mais... Oh, non. La jalousie n'est pas une cause. On vient pas voir un psy en disant je suis jaloux.
Non, pas du tout. Non, parce qu'ils sont dans le déni. Et c'est là où il y a une forme de psychose et de paranoïa qui s'amplifie à un moment donné, qu'ils vont cultiver et qui nous coupe dans la relation avec l'autre, et notamment la relation, comme je le disais, avec soi-même. C'est-à-dire qu'on ne se questionne plus, on n'est plus du tout dans l'introspection. Donc ces personnes-là ne viennent pas nous voir.
Bon, à quoi on peut voir alors tous ceux qui
vous
écoutent?
Vous l'avez dit vous-même, vous étiez jaloux tout à l'heure.
J'ai dit ça moi?
Ouais.
Ah oui, d'accord, ok.
Mais vous aussi... Nous on l'a entendu en tout cas.
Jaloux.
C'est terrible de dire ça. C'est terrible de dire à quelqu'un qu'il est jaloux. C'est comme si.
Non, mais. Je suis au top là.
C'est déni.
Franchement, j'ai fait le tour pendant.
C'est différent de dire qu'on peut ressentir de la jalousie et de dire qu'on est jaloux parce que ça t'installe dans un état qui est complètement immuable.
Et là, il y a un moment, il faudrait donner de l'argent, monsieur, parce qu'il y a toutes les questions.
Je pense surtout que la nuance que vous avez donnée tout à l'heure.
Je travaille.
La nuance que vous avez donnée tout à l'heure sur la jalousie.
Tout arrive.
Sur la jalousie et sur l'envie est très importante, parce que je rejoindrai plutôt ce qu'a dit tout à l'heure David sur la musique n'a pas voulu de moi, en faisant la même vanne en disant le cinéma n'a pas voulu de moi. C'est vrai qu'on peut regarder quelqu'un en l'admirant, en disant j'aimerais être le sportif qu'il est, le comédien qu'il est, le musicien qu'il est, et sans en être capable, et après sans être jaloux, mais voilà.
Non, mais ça c'est le phénomène des stars également. En tout cas, à un moment donné, il faut faire le deuil sur ce qu'on n'est pas.
Je parle pas forcément de gens connus, je parle de gens plutôt doués.
Ça stimule.
Mais c'est un moteur, ça.
C'est un moteur, ça nous stimule également à travailler sur ces objets et à se réaliser également. Ce sont des parties de soi-même qu'il faut développer. Et puis peut-être que on n'aura pas, talent suffisant pour ça,
travailler,
mais on ne pourra pas percer.
Merci à la fois pour toutes les informations que vous avez données, mais pour la vision et la perception du film.
Absolument. Il faut aller le voir, excellent.
Merci Pascal Neveu, psychanalyste, psychothérapeute, directeur de l'Institut français de psychanalyse active.
C'est une belle personne,
Pascal.
Tanguy, Pascal.
Bonjour. Tanguy,
vous allez nous parler des Paradise Papers.
Oui, scandale. On découvre que des gens, des sociétés font de l'optimisation fiscale. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller voir Bruno Le Maire et lui refiler leur argent, ils vont voir un mec plus bronzé, en short, aux îles Caïmans, qui au moins lui connaît ton nom et te propose de siroter un spritz au bord de la piscine à la cool. Le maire peut pas lutter, évidemment.
Très bien. Tanguy, Pascal, ça sera tout à l'heure à 12h10 dans la bande originale du film Jalouse, et dans la bande originale il fallait aussi que l'on écoute un peu de jazz, puisque Coltrane est présent aussi.
Très important, il est très puisque Carina du mal à dire son nom, c'est Bruno Todeschini qui rencontre un bel homme qui adore Coltrane, donc il essaie de l'initier à Coltrane. Effectivement, elle passe tout son temps dans le film à essayer de bien dire Coltrane. Mais ouais, voilà, nous c'était important, puis c'est magnifique de pouvoir avoir cette musique.
Et il lui faut du temps pour être un peu jazzy.
Et c'est un trait d'union amoureux entre elle et Bruno Todeschini, c'est vraiment...
Mais tu nous fais un peu mal parce que là on entend A Love Supreme. Et ça coûtait un petit peu cher, on n'a pas pu avoir le droit. Donc on a une balade dans le film.
Excuse-moi, j'ai pris le meilleur.
Ouais. Mais on a les droits de la pochette.
Très bien.
Et donc c'est une belle image de
jalousie.
Voir.
Ah ouais.
Ça sera dans la dernière partie. Nous parlerons encore évidemment de ce film Jalouse sorti aujourd'hui avec David et Stéphane Fuenquino.
Ouais.
Là, c'est pas rouge.
Là, c'est assez rouge. C'est la bande originale avec Leïla Kadoboudadi, Alison Wheeler, Tanguy Pasturo, Daniel Morin, Albert Albou et nos invités, Stéphane et David Fuenquino.
Bravo.
J'essaye d'alterner le David et Stéphane et le Stéphane et David parce que ça dépend.
On n'avait pas remarqué, mais c'est très bien.
Si, si, j'alterne pour pas qu'il y ait de jalousie, justement. Karine Viard, Dara Tombroff, Anne Dorval, Thibaut de Montalembert, Bruno Todeschini, Marie-Julie Baupe, Corentin Fila, Anaïs de Moustier, et puis la bande originale. J'adore ce titre de Sophie Hunger.
Ah, j'adore.
Alors que normalement elle fait plutôt du rock, elle envoie du bois, Sophie Hunger, et là elle fait une valse.
Une valse pour personne.
Pour personne.
Ouais, bah, ça correspond bien au moment du film.
Ouais.
Voilà. On adore cette chanson et c'est vrai que en plein milieu du film, deux minutes comme ça de poésie, de beauté en allemand.
Ouais.
Les producteurs étaient un peu surpris au début, mais voilà, on a
des producteurs qui sont aussi des frères, les frères
Altmaier.
Et on a eu la chance.
Ils sont géniaux, ils sont adorables.
Sophie Hunger est venue voir le film hier soir, on l'a rencontrée.
On l'a rencontrée pour la première fois hier. Ouais, c'était très émouvant.
Elle est belle comme tout en plus.
Ouais,
elle dégage un truc.
Adorable.
Jalouse avec Karine Viard. Ce film de David et Stéphane Fuenquino sorti aujourd'hui, déjà les meilleures entrées du cinéma français pour aujourd'hui. Souhaitons que ça dure, et ça va durer, il n'y a aucune raison, parce que c'est un film, et pour l'avoir vu, malgré ce qu'a dit tout à l'heure Daniel, j'ai envie de le revoir. Oui, Daniel, parce que quand c'est un bon film...
Il y a des leçons à
retenir. Quand c'est un bon film,
c'est le partage,
on s'attache.
Et on se sent bien. Ouais. On se sent bien en compagnie de l'histoire, des personnages, et vraiment, Karine Viard, c'est encore un tour de force, je trouve.
C'est incroyable.
Et puis il y a ce comédien, alors vous l'avez repéré, Corentin Fila, dans le
Téchiné.
Dans le film de Téchiné, c'est que son deuxième film, et c'est vrai qu'il est, impressionnant, surtout qu'il faut quand même préciser qu'il faut jouer face à Karine.
Elle est impressionnante pour les autres comédiens.
Oui, elle est très impressionnante, bien sûr. Et en plus, quand elle est censée balancer des horreurs, mais nous on riait derrière le combo, mais c'est vrai que le comédien qui doit rester concentré, et un jeune garçon comme lui, il a une intelligence de jeu et il s'est resté à sa place. Et encore une fois, la réaction est aussi importante que l'action.
Ouais.
Est-ce qu'il y a eu la frustration pour vous de couper, d'enlever des scènes qui ont été tournées, qui étaient pour vous jugées peut-être trop longues ou moins importantes? Est-ce que ça arrive d'amputer un film de quelques minutes?
On est content du film. Frustration pour certains comédiens qui sont venus
qui ne sont plus au casting.
Oui, malheureusement, ça a été dur pour nous. Mais le premier montage faisait 2h15, donc voilà, on a coupé une demi-heure. Et d'ailleurs, le film est peut-être mieux rythmé, et on est content.
Et ça, c'est drôle, on demandait est-ce qu'on a appris quelque chose du premier film. Le premier film avait 40 minutes de trop, on a dit ça n'arrivera pas ici. Et évidemment, on a exactement eu le même problème.
C'est qu'une demi-heure, maintenant, c'est plus 40 minutes, ça devient une demi-heure, c'est en progrès.
Mais voilà, un peu frustré pour certains.
Bien sûr, mais ce qui est beau à ce moment-là, c'est que le film se décide et se choisit de lui-même.
Mais pardon, une demi-heure, c'est super long. Il devait s'en passer des choses dans cette demi-heure, vous avez retiré quand même.
Oui. Ouais, et finalement, c'était de la redondance. On s'est rendu compte qu'on est un peu, à force de gratter, on a eu envie de donner l'essence même du film, qu'on a été un peu à l'os.
On a coupé une intrigue un petit peu, qu'on développait.
Ah d'accord, il y avait une sous-intrigue.
Voilà.
D'accord. Parce que c'était pas un ordre des producteurs de dire il faut faire un film d'une heure et demie.
Pas du tout. Non, on a été très libres. Ils sont vraiment super, nos producteurs. Nous, on avait envie d'un film plutôt 1h40.
Bah, il y aura des bonus dans le DVD. Et puis,
exactement.
Il y a encore des DVD.
Il y a encore des bonus dans le DVD.
Mais vous avez prévu les acteurs qui étaient coupés ou ils vont le découvrir?
Jamais de la vie.
On aime les acteurs, on les a appelés. Ils sont remerciés.
Je suis tellement angoissé, j'ai tellement vécu ça en tant que directeur de casting. Ouais. J'essaye de... Avec David, on leur a donné
les scènes aussi pour les bandes démos.
Surtout que vous avez demandé qui rembourse l'argent, puisqu'il n'était pas. J'allais bien les prévenir un moment. Non.
Ce très bon film s'appelle Jalouse et il sort aujourd'hui au cinéma. David et Stéphane Fuenquido sont nos invités jusqu'à 12h30. Il est 12h11, ça veut dire que Tanguy Pastureau va maltraiter l'argot. Tanguy, les révélations des Paradise Papers donc font trembler le monde des puissants. On l'a encore entendu là aux infos de midi.
Oui, et là on parle de gens très très riches, hein, des gens pour qui Patrice Evra, le champion de Krav Maga, c'est un gueux. Des groupes ou particuliers français qui voient Madame Macron dans Gala se disent « Ah la vache, Brigitte a sorti l'ensemble Vuitton à 7000 boules, peut pas s'habiller chez qui habille cette bourgeoise, pas question que ce soit moi qui la sape, elle a cru que je bossais dans le sentier, allez hop, je mets mon brosou fire. » C'est de l'optimisation fiscale et c'est légal. Quand on est riche, on fait un gros montage en encore plus compliqué que celui de la commode Tarvas 6 tiroirs d'IKEA. Et on découvre des endroits du monde où Frédéric Lopez ne va pas, parce qu'il n'y a ni Inuit ni Pygmée, mais juste des banquiers. Exemple, le Panama, mais il faut aimer la drogue. Jersey, mais il faut aimer les Anglais. Ou les îles Caïmans, mais il faut aimer l'eau. Parce qu'avec le réchauffement, dès 2025, le coffre-fort bourré de blé sera à 20 mètres sous la flotte. Et un retrait, ça se fera avec des bouteilles. Ce que fait déjà Benoît Poulvorde quand il va à la Brède en sortant de faire ses courses. Des journalistes ont enquêté, dont le service Investigation de Radio France. N'est-ce des pas. Gens comme nous, sauf qu'ils bossent. Hein, ils ont le cerveau de Sherlock Holmes et des looks d'intermittents. Les mecs sont capables de retrouver vos clés de voiture à France Bleu Mayenne, alors que vous pensiez les avoir perdues ici, à la machine à kawa. Et leur constat est terrible. L'optimisation fiscale est aussi courante que l'usage d'huile de friture en tant que shampoing pour Benjamin Biolay. La reine Elisabeth II, Mamie Pudding, en a croqué, et sans les dents, puisqu'elles sont dans un verre. Elle a une société intitulée Duché de Lancaster. Normalement, avec un nom pareil, on se retrouve dans Game of Thrones à trucider un dragon monté par un nain. Mais elle, avec ça, elle a investi 7,5 millions de dollars au Caïman. Un proche de Justin Trudeau, le beau gosse québécois, le seul avec Fifi le Caribou à pas avoir été invité à le rejoindre dans sa chambre d'hôtel par Gilbert Rozon. A lui aussi un trust au Caïman. Les Caïmans, c'est très fréquenté. C'est comme Berplage, sauf qu'il y a du soleil et pas de frites.
Oui, en plus, il y a plusieurs stars mondiales qui ont été débusqués par les Paradise Papers.
Oui, le pilote de F1, Lewis Hamilton, hein, que déteste Anne Hidalgo puisqu'elle préférait qu'il fasse du VTT en compète, a acheté un jet privé sur l'île de Man. Là-bas, il n'y a pas de TVA sur les jets, donc c'est le meilleur spot pour s'en procurer un. Hein. Chaque lieu a ses spécificités. Si vous voulez une Renault 19 Chamat d'occasion avec un moteur Golf Bon Jovi, c'est l'Algérie. Si vous voulez une MST, c'est Pattaya. Bon, bah, les jets, c'est l'île de Man. Bono, chanteur de U2, est lui actionnaire d'une entreprise de Malte qui a investi dans un centre commercial en Lituanie. Wow. Hein, on se dit, waouh, ça sent le soufre. Bono, c'est un rocker, il doit sniffer de la blanche sur les tétons de groupies excitées. Et en fait, c'est juste le Francis Bouygues de la Baltique. Hein, il se retrouve à construire à Auchan en banlieue de Vilnius. À part Stéphane Plaza et 2-3 castors, il va perdre tous ses fans. Mais il n'y a pas que des individus à être concernés, il y a aussi des entreprises comme Apple qui est installée en Irlande, seul pays où tu peux pas te moquer des roues parce qu'ils sont majoritaires et te pètent la gueule. La taxe sur les sociétés là-bas, c'était Podzob, donc ils étaient bien. Mais l'Irlande l'a augmenté. Hein, ils se sont dit, on n'a plus de chômage, il y a les élections qui arrivent, qu'est-ce qu'on va promettre comme baisse ? Hein, donc Apple est parti à Jersey, où il y a zéro impôt sur les sociétés. En installant leur production là-bas, Nagui, vous pourriez produire 16 000 taratata en plus par an. Hein, à Benabar, vous diriez, vas-y mon gars, chante-là ta chanson sur le numéro qui est au fond des verdures Alex, plus toutes les autres, parce que t'as 14 heures devant toi. Nike s'est installé aux Pays-Bas où ils ne payent rien. Hein, moi, je comptais me mettre au sport en me disant l'argent des baskets va partir à Bercy, que dalle. Hein, donc, à la place, je vais continuer à glander. J'ai trouvé mon excuse. La prochaine, ce sera l'arthrose dans 10 ans. Whirlpool planque son argent aux Bermudes. Hein, donc, là, pareil, j'arrête de laver mon linge. D'ici 15 jours, je suis Michel Houellebecq. Chez Dassault Aviation, ils ont même créé des filiales sur l'île de Man, hein, celle des avions. Hein, là-bas, il n'y a pas un mec au sol. Hein, ils sont tous dans le ciel, comme les premiers fans de Charles Aznavour. Avec les filiales, Dassault achetait ses propres avions et les revendait sans TVA à ses clients. Enfin, un bazar. Hein, le soir, les enfants demandaient au boss de Dassault « Papa, c'est quoi ton métier ?» Il répondait « Je sais plus, Kevin. » Tout ça, c'est trop compliqué, Nagui. Alors, nous tous, ici, autour de la table, on a beau gagner plein de fric. On reste en France !
Et on paye nos impôts, oui.
Absolument.
Nagui, sur France Inter. Bravo. Jalouse dans ce film avec Karine Viard et dirigé par David et Stéphane Fuenquinos. Vous allez vous amuser et vous émouvoir parce que là aussi il y a un juste équilibre entre la comédie et puis l'affection. Tout à l'heure Leïla, tu le disais, on s'attache même à sa méchanceté.
Mais oui,
on a de la peine pour elle.
C'est pas tant à la méchanceté qu'on s'attache, mais au personnage, en se disant qu'elle, voilà, elle est blessée, elle a pas mauvais fond en réalité, elle est juste un moment dépassée. On parlait de pulsion tout à l'heure.
Oui,
on la voit quand elle se jette sur le dessert qu'elle mange à pleine bouche, comme si elle avait une sorte de boulimie. Non, mais c'est vrai, elle fait une sorte de crise à ce moment-là. Et bien, comme si c'était les mots sortaient, elle était complètement habitée, une sorte d'exorcisme, voilà, voilà, le sort de fiel qui sort de
surtout,
sa bouche.
Surtout, elle était en plein dîner amoureux, elle vire, alors qu'il était super classe, élégant, et qu'il n'y avait aucun problème, elle vire son prince charmant,
son prétendant,
joué par Bruno Todeschini, et elle se finit le dessert dans la cuisine.
Elle ne l'a pas gâché.
On va pas dire pourquoi elle le vire, mais il y a quelque chose. Mais c'est vrai que c'est aussi la chance d'avoir Karine Viard, parce qu'elle ose tout, elle va loin et on l'aime quand même.
D'ailleurs, on demande au public si Karine, c'est incroyable le capital sympathique qu'elle a.
Elle peut tout se permettre.
Mais ça veut dire qu'elle proposait ce genre de scène ou c'était quand même vous qui dirigez tout?
Tout est très écrit.
On va avoir une ou deux répliques.
Voilà,
hors micro. Et puis qu'on a gardé. Mais non. Par contre, c'était cette liberté de ton. C'était pas dans l'écriture, parce que tout était déjà écrit. Mais
alors, quel était le point de départ?
Dans l'énergie, le tempérament.
À quel moment vous êtes dit, on a écrit sur la délicatesse, maintenant on va écrire sur la jalousie?
Sur l'indélicatesse.
Ouais, c'est ça.
Pourtant, au départ, on avait envie de faire à nouveau un portrait de femme, mais très, très rapidement, ce qui nous excitait, c'était le côté tabou du sujet, le côté corrosif, c'est-à-dire, voilà, raconter ce moment de vie dans une femme avec tout ce que ça pouvait impliquer d'excitation, de scène, de malveillance, s'amuser aussi de ces travers-là. On aime, quand on va au cinéma, voir des personnages qui font ce qu'on n'oserait jamais faire. Ça, c'est excitant. Donc, ça, c'était le point de départ.
Et puis, se surprendre, j'espère, et surprendre le spectateur. C'est-à-dire, on connaît le chemin, il est balisé. Tiens, ça prend sa vire à droite,
Ça vire
à gauche.
Oui, il n'y a pas vraiment, on ne va pas raconter, mais ce n'est pas un film à happy end, en tout cas. Il y a une progression.
Non, en tout cas, c'est sûrement pas cousu de fil blanc. On ne voit pas venir ce qui se passe.
On espère.
Et on ne sait pas comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des références cinématographiques pour vous dans ce film?
Est-ce Tarkovski, on est sur France Inter.
Oh, le bottine.
Et puis, une comédienne magnifique, on n'en a pas assez parlé, c'est Anne Dorval.
Merci,
Léla.
Anne Dorval.
On peut rendre hommage Passion, Anne Dorval.
On vole là pour eux. Moi, j'ai un amour du Québec immodéré, donc je sais qu'il fallait qu'on ait des Québécois. On a d'ailleurs
Anne Dorval sans accent.
Sans accent, vraie parisienne.
Mais ça, c'est un désir de Anne. C'est-à-dire qu'au départ, on était allé la voir. On lui a dit, mais nous, on t'adore comme actrice. Si, voilà, l'accent ne nous gêne pas. Elle dit, ah non, je veux jouer une vraie parisienne. Bon, après, on rigolait avec elle parce qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle racontait. Elle est prof en Cagne, à Buffon. Et c'est là, non, mais en même temps, ce qui était magnifique, c'est que là, vous êtes des spectateurs sur un plateau. On voit deux géantes qui arrivent comme ça. Karine et elle, ça a été immédiat. On croit qu'elles sont copines depuis 25 ans. Et c'est un apport et c'est un cadeau qu'elle nous a fait. On l'aime. Ouais.
Anne Dorval, c'est l'une des égéries de Xavier Dolan. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on la voit apparaître dans un film, elle a, là, dans ce film-là encore, elle a quelque chose de très féminin et en même temps de très terrien, quoi. Cette alliée qui l'abandonne
pas.
C'est
ça. Ça nous a permis aussi de traiter d'un sujet qui était difficile. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste amis avec des gens épouvantables? Ça vous parle?
Non, ça... Daniel n'a pas d'amis.
Il y a eu un silence gêné. L'enchaînement est tout trouvé. Voici Daniel Morin.
Non, Daniel.
Et pendant ce temps-là, Nicolas Hulot est au bout de la route. Le ministre de l'écologie l'a admis, la baisse du nucléaire de 50% d'ici 2025 ne sera pas atteinte. Les écolos sont comme des ouf, ils gueulent comme des putois. Ouais, Nicolas, salaud, vendu, fumier, douanier, ouh. Doucement les gars, arrêtez de brailler comme des veaux. Il est honnête, Hulot. Il est honnête, même si c'est dur de dire, et c'est pas plus mal dans ce monde de crevards, la vérité. À ça, l'honnêteté, on n'est plus habitué. Hein. Ça déboule, ça peut faire chahuter plus d'un, dériver plus d'un, dérouter plus d'un. Du coup, quand je me suis assoupi hier après-midi, je me suis mis à rêver à ça. Dans mon rêve, j'étais tranquille dans mon bureau en train de regarder la première participation en tant que comédienne de notre réalisatrice, Hélène, au programme Jackie et Michel. Quand d'un seul coup, il est 11h. Alors je me précipite dans le studio pour participer à l'émission de divertissement culturo-populo-oriental de la mi-journée animée par Dagui, la bande originale. Et c'est là que je me suis rendu compte que de dire la vérité, que d'être direct, que de dire quand ça va pas, c'était plutôt pas mal, qu'on en apprenait beaucoup sur les invités et sur les animateurs. Dans la première partie de mon rêve, Nagui avait trouvé le film super. Les invités étaient contents d'eux, bref, tout allait bien. Bonjour, bienvenue dans la bande originale. Aujourd'hui, nos invités sont David et Stéphane Funkino. Bonjour les gars. Alors, jalouse, formidable. Hein.
Ah ouais, à ce point-là.
Ouais, j'ai jamais autant aimé un film. C'est vrai qu'on est plutôt fiers. Alors, comme quoi, travailler en famille, c'est la bonne idée. C'est vrai, j'ai beaucoup insisté pour travailler avec Stéphane. J'ai dit au producteur, ça va le faire grave. Petit, on était comme les deux doigts de la main, on partageait tout. Je veux bosser avec mon frère. Et à la prod, ils m'ont dit, super idée. Leïla, vos oreilles ont sifflé quand vous avez appris qu'on recevait David et Stéphane Funkinos.
Oui, elles ont tellement sifflé qu'elles ont fondu de plaisir. Avant, quand je pensais à vous, vraiment, je me disais waouh, génial. Et maintenant, je me dis, si le talent a une frontière, les Funkinos viennent de la traverser avec brio. Wow.
De votre côté, Albert Algout, vous avez vu le film?
Bah, bien sûr que oui.
Et alors?
Bah alors, j'en ai encore des frissons de bonheur.
Et vous, Daniel? J'ai trouvé ça nul. Non, mais arrêtez de déconner. Non, s'il vous plaît, c'est fatigant. Et puis, deuxième partie de mon rêve, ça se passait beaucoup moins bien. Bonjour et bienvenue dans la bande originale. Aujourd'hui, nos invités sont David et Stéphane Funkino. Bonjour les gars. Alors, jalouse, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça? C'est pas génial, on s'attendait à mieux. C'est vrai que c'est pas le résultat qu'on attendait. Comme quoi, travailler en famille, c'est peut-être pas une bonne idée. C'est vrai qu'au départ, je voulais pas travailler avec Stéphane. J'ai dit au producteur, ça va pas le faire. Quand on était petit, il me piquait toujours mes jouets, il bouffait mon goûter, je veux pas. Puis ils m'ont dit, si, pour la promo, c'est bien, c'est hyper vendeur. Leïla, vos oreilles ont sifflé quand vous avez appris qu'on recevait David et Stéphane Funkinos.
Ouais, elles ont tellement sifflé qu'elles sont presque tombées, en fait. Avant, quand je pensais à vous, je me disais, waouh, génial! Maintenant, je me dis, waouh, pourquoi?
Albert Algout, vous avez vu le film?
Malheureusement, oui.
Et alors?
J'en ai encore des frissons de douleur.
Et vous, Daniel? Je trouvais ça super. Oh, mais arrêtez de déconner! C'est fatigant, hein! Et il n'y a pas que chez nous que cet élan de franchise extrême est constaté. Dans mon rêve, chez Augustin Trapenard, le pape de la culture de proximité hertzienne, c'était pareil. Quand Augustin, il aimait, il le disait franco.
David et Stéphane, Stéphane et David, c'est comme on veut. Les Funkinos signent un film bouleversant avec en vedette la sémillante Karine Viard, le titre Jalouse. S'il y a un terme depuis toujours qui convient aux frères Funkinos, c'est bien génial. Et bien aujourd'hui c'est encore vrai. Jalouse, un film comme un souffle de vie, tant il donne l'impression d'avoir été écrit avec le cœur, une vraie merveille. Mais Jalouse, et c'est bien là le plus formidable, Jalouse sonne d'évidence comme la consécration divine de Karine Viard.
Bon rang.
Salut les frères Funkinos, merci d'être aussi fantastiques.
Et aussi, je peux vous dire une chose, quand il aime pas Augustin, il est méga cash le Augustin, je vous le dis.
Attention les gars.
David et Stéphane, Stéphane et David, c'est comme on veut. Les Funkinos signent un film bouleversant avec en vedette la problématique Karine Viard. Jalouse. S'il y a un terme depuis toujours qui convient aux frères Funkinos, c'est bien inspiration. Mais aujourd'hui, il semblerait que cette période soit révolue. Jalouse, un film qui devrait plaire à Georges Tron, tant il donne l'impression d'avoir été écrit avec les pieds. Une vraie merde. Mais Jalouse, et c'est bien là le plus dramatique, Jalouse sonne d'évidence comme la fin de carrière de Karine Viard.
Augustin Trapenard.
Salut frère Funkinos, désolé pour la présentation, je suis franc et je suis très Nicolas Hulot.
Ça dépote le concept Nicolas Hulot, ça dépote tellement que ça m'a réveillé en sursaut. C'est vrai, je suis pas habitué à autant de franchises autour de moi. Moi, vivre dans le mensonge, je m'étais habitué, ça fait 20 ans que je dis à ma femme que je l'aime. Ça fait plus de 3 ans que Nagui me dit qu'il me trouve drôle pour vous dire si je suis dans le mensonge le plus sévère. Vivement qu'on en revienne à des valeurs aussi viles que sournoises que je retrouve mes repères et aussi mes fondamentaux. À demain.
Bravo
Daniel, merci Augustin. Leïla,
merci à Augustin.
Avec Nagui.
Trop fort.
Augustin était très inquiet. Je l'ai rassuré. J'ai dit
que tu gardes que l'une des deux.
Je ne sais pas quand l'auditeur sera tombé. Il a écouté toute l'émission, mais pas que une partie.
Donc nous allons le redire. On a vraiment aimé Jalouse et on vous encourage vraiment à aller le voir. Est-ce que vous avez des projets, Stéphane, un jour peut-être de réaliser votre film seul?
Pourquoi pas? Il y a des projets, effectivement, mais pour l'instant, on se sent bien en famille. Voilà. Donc j'ai un
projet. Un jour ça va arriver.
Il va faire son McCartney.
Non, je vais faire voilà, je vais faire mon McCartney, mon solo. J'ai un projet au Québec, voilà, que j'aimerais faire, qui est en fait la suite de quelques courts métrages que j'ai fait là-bas avec des chanteurs québécois. Il y avait Pierre Lapointe, que France Inter connaît bien.
Et ça veut dire que ça serait quoi, une comédie musicale?
Non, pas du tout, parce que ce que j'aime, c'est utiliser les chanteurs pour en faire des acteurs, voilà. Donc ça, c'est.
Et pourquoi ça? Qu'est-ce qu'ils ont qui vous intrigue?
Ils sont justes.
Il y a un côté d'une justesse. C'est extraordinaire de voir des gens qui remplissent des stades et qui, tu connais ça, quand tu reçois aussi des chanteurs-acteurs et que quand ils se retrouvent face à une caméra, il y a comme une peur, une fragilité
de la
première fois. Et voilà. Donc il y avait Émilie Simon qui avait fait la musique de Lady Kiatès, que j'avais aussi mis en scène dans un court-métrage.
Et l'écriture, David Fuenquinos, parce qu'on a parlé de tous vos romans à succès, de tous les prix que vous avez légitimement reçus, même si il pourrait y en avoir encore plus, c'est mérité. Vous êtes en train, vous savez déjà sur quoi vous
allez. Oui, j'ai déjà écrit mon prochain roman.
Déjà,
oui, parce que c'est vrai qu'il y a un décalage. Le film, on l'a fini il y a un an déjà.
Est-ce que les phrases seront plus d'une ligne cette fois ou qu'est-ce qui va se passer?
Non, alors là, faites référence à Charlotte.
Charlotte,
ouais. Oui, c'est un. Mais en même temps, il y a un petit lien avec Charlotte, mais voilà. Il sortira au printemps, on en parlera à ce moment-là.
Qu'est-ce qui vous attire autant pour que les femmes soient le sujet toujours des romans, des films, de vos attentions? Et uniquement les femmes, même s'il y a des hommes, et les hommes sont vraiment en périphérie.
C'est parce que nous sommes des femmes.
Wow. C'est notre part féminine.
Comme ça,
mais notre prochain film, c'est un film avec des mecs, des flingues. On va faire un truc très différent.
Non, mais c'est. Ça va très bien, mais c'est vrai que vous avez une sensibilité, une compréhension.
Ouais, mais je pense que
on aime filmer les femmes, ça c'est ça.
On aime les femmes, et voilà, il faut aimer les femmes et il faut les aimer bien, s'il
Madame
vous plaît.
Madame Bovary, c'est moi.
Voilà. Et puis c'est merveilleux de pouvoir se. Non, mais c'est immiscer dans tous les personnages.
Stéphane, cette phrase est belle surtout en ce moment. Elle est belle dans toutes les époques, mais il faut les aimer bien.
Oui, s'il vous plaît.
C'est ça qui est important.
Avec respect.
Avec respect. Des excuses à présenter, Daniel.
Désolé pour Leïla qui a donc appris ce matin que l'on disait bien Fuenquinos et non pas
Fuenquinos.
Nagui, moi, je savais que tu avais raison. Désolé pour les frères Fuenquinos qui ont appris ce matin que mademoiselle Leïla Kadour Boudadi, notre madame culture, salopait leur nom à l'antenne. J'ai honte, je suis gêné. Nagui, il faut sévir, il serait temps. Désolé pour les fans de Leïla Kadour Boudadi qui ont découvert qu'elle comprenait. Non, mieux qu'elle aimait la méchanceté du personnage joué par Karine Viard. Moi qui ne suis que miel, amour et respect de l'autre, j'ai mal à ma France, mais ça, elle ne peut pas comprendre. Désolé pour les valeurs que sont les frères Fuenquinos. J'ai eu à la pause pipi les ayants droit de Michael Jackson et j'ai l'impression que vos comptes en banque vont en prendre un sacré coup. En même temps, je les comprends.
Merci mille fois et bravo encore à David et Stéphane Fuenquinos. Jalouse, c'est aujourd'hui.
Merci.
Allez-y. Demain, nous recevrons Audrey Dana pour Indocile. Non pas seul en scène, puisqu'ils sont deux en scène, mais c'est extrêmement proche, en tout cas, de sa vie personnelle. Elle nous racontera tout ça demain. Audrey Dana, merci encore. Allez voir Jalouse avec Karine Viard, réalisé par les frères Fuenquinos. Philippe Bertrand pour les Carnets de Campagne. Bonjour Philippe.
Oui, salut Nagui, salut la bande.
Salut.
Et j'ai pas encore vu le film, mais je peux vous le dire. J'ai adoré. Karine Viard, c'est une bombe.
Bonne émission.
Salut les amis.
Ciao.